RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur, sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Venez prendre la parole avec nous au 32-16 avec nos deux profs. Aujourd'hui, le prof d'éco, Frédéric Farah, le professeur de philosophie, Jean-Loup Bonamy, et puis Zorabitant, cadre de la fonction publique. Venez prendre la parole au 32-16 pour parler notamment du rappeur Jul.
RMC, les grandes gueules.
What's up?
Le plus gros vendeur de disques de rap en France. Hein. Là, il a vendu plus de 4 millions, 4 millions de disques. C'est un signe. Alors,
est-ce que vous savez faire le signe de Jul?
De Jul, vas-y, essaye.
Vas-y. Je regarde, c'est comme
attends.
Ça.
Non, de l'autre côté.
Dans l'autre côté.
Putain, j'y arrive pas.
Jean-Loup.
Ouais, Zora, vas-y. Les ah non, mais moi, mes petits enfants, ils ont essayé de me le faire faire, je sais pas comment
ça,
mais d'ailleurs, ils se fichent de moi.
Zora, c'est pas compliqué, vas-y.
Comme ça.
Bah, tu fais comme si tu faisais une A, et tu tournes et tu fais ça.
Ah, d'accord. Voilà.
Elles sont bien. Moi, voilà. Je pense que j'avais pas assez concert.
C'est pas gagné.
Hein.
Ils se moquent de moi, ils me font
là,
ça.
Là,
et
je sens qu'un côté has-been m'envahit là.
32-16 pour parler avec vous de Jul. Pourquoi est-ce que nous allons reparler de Jul? Parce que. Après sa prestation à Marseille, l'allumage du chaudron, ouais. Ben, hier, Renaud Muselier, le président de la région Sud, une fois que la fête est passée, dit oui, bon, ça aurait peut-être pas été mon choix. Écoutez Renaud Muselier.
Je pense que c'est un peu gâché la fête, en fait, cette histoire. Parce que Jul a largement sa place pour porter la flamme. C'est assez facile. Il est porteur d'un certain nombre de choses. Il rend hommage à la zone. Il rend pas hommage aux Jeux Olympiques. Il rend pas hommage à la France. Donc oui, c'est un exceptionnel
aussi pour vous,
chanteur.
Ouais.
Un exceptionnel chanteur, mais c'est pas sa place.
Ah, c'était un exceptionnel chanteur. C'est pas sa place. En revanche, il a un ardent défenseur, Jul. C'est le Premier ministre, Gabriel Attal. Écoutez.
L'essentiel, c'est que ce soit une fête qui rassemble tous les Français. Et moi, je ne serai jamais dans l'ostracisation, dans la critique de telle ou telle musique, de tel ou tel artiste. Je crois qu'il y a une direction artistique des Jeux Olympiques, avec Monsieur Joly qui organise les choses. Moi, je pense que ce moment, et on l'a vu hier, c'est les images qu'on a vues hier, ça peut et ça doit être un moment fédérateur et de rassemblement des Français. Et tout au long du relais de la flamme, vous aurez des personnalités très différentes qui vont se succéder. Je crois que ce matin, il y avait Basile Boli. Mmh. Il y en aura encore d'autres qui vont se succéder. L'important, c'est que tous les Français se retrouvent à un moment ou à un autre derrière les femmes, les hommes qui vont se succéder dans ce relais de la flamme.
Voilà. Alors, dans quel camp êtes-vous, Jul? C'est le J, c'est le S, c'est le sang, ouais. Ou plutôt dans la critique façon Renaud Muselier?
Ouais, qu'il y a même au sein de la classe politique une fracture générationnelle.
Ouais,
le jeune Attal défend Jul, l'ancien Muselier trouve que ça a un peu gâché la fête. Hein, c'est ce qu'il a dit, Renaud Muselier. Je pense que ça a un peu gâché la fête, cette histoire. En fait, beaucoup attendaient Zinedine Zidane. Nous, on était à Marseille et on ne parlait que de Zidane. Tout le monde était persuadé que ça serait Zidane.
Zidane, il chante pas.
Donc, en fait, il y a eu une fausse piste. Alors, c'est bien joué des organisateurs parce qu'ils voulaient garder le secret jusqu'au bout. Ça a fonctionné parce que quand Jul est apparu sur cette piste d'athlétisme sur l'eau, forcément, ça a été quand même un peu la stupéfaction. Alors Jul, on nous dit est choisi parce que c'est le plus gros vendeur de rap de l'histoire du rap français.
Bah ouais.
7 millions d'albums. Moi, quand j'interroge mes filles, elles trouvent ça génial
parce qu'elles
adorent Jul.
Bah voilà.
Elles rêvent d'aller le voir. Vous savez que 2025, c'est déjà complet le Vélodrome pour Jul. Après, qui on doit choisir? Choisit celui qui vend le plus de disques, ou est-ce qu'on doit choisir quelqu'un peut-être qui est fédérateur? Et c'est vrai que Zidane est connu dans le monde entier, pas Jul. Donc l'image Zidane aurait sans doute fait le tour du monde, ce que n'est pas le cas avec Jul. Alors peut-être que Zidane se réserve pour Paris pour être le dernier porteur de la flamme à Paris. Voilà. Alors est-ce que ça a gâché selon vous cette fête qui était plus
réussie? C'est incroyable. J'ai dit la même chose pour Aya Nakamura. Bon. Voilà, ça fait partie d'une génération. Nous, on a connu des générations, on a starisé des artistes qui étaient controversés aussi, mais qui incarnaient une génération. Eh ben, Jul incarne une génération, mais je crois que Gabriel Attal l'a dit. Il a dit, il fallait une palette qui représente un peu la
Sauf
société.
Sauf qu'il a chanté une chanson en 2014. Le titre, c'est Cross Volée. Oui. Il chante notamment Te déshabille pas, je vais te violer. Je sais pas si on a un extrait, on l'a.
Cross Volée. cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Sors le gros volet.
Te déshabille pas, je vais être violé. Alors depuis, il s'est excusé pour cette chanson. Voilà. Et c'est vrai que dans les chansons plus récentes, il fait partie quand même des rappeurs qui sont quand même plutôt sympas avec les filles, parce qu'en général, les rappeurs sont quand même assez misogynes. Mais bon, cette phrase, non, cette phrase, ouais, et certains disent, c'est deux poids deux mesures. Genre aujourd'hui, on est capable de bafouer la présomption d'innocence de tel ou tel artiste parce qu'il y a eu une prise de parole. Donc le MeToo doit passer à tout prix. Et quand il s'agit de Jul, finalement, on dit c'est pas grave, c'était il y a longtemps.
Tu vois, pardon, ce matin, souviens-toi de Sandrine Rousseau qui tombait en raccourci sur Michel Sardou avec sa chanson Dans les villes de grande solitude, où il dit, raconte les fantasmes d'un type.
Dans les 70. Hein.
Dans les années 70. Ce matin, elle était l'invitée d'une chaîne concurrente. Elle n'a pas dit un mot sur Jul. C'est plus facile de taper sur Sardou que sur les paroles.
Ah bah oui, parce
les
que Sardou, c'est un réac facho et j'en passe. Et voilà.
Peut-être que les électeurs de Sandrine Rousseau sont plus Jul que Sardou.
Bien évidemment, je pense que ces électeurs sont plus Jul que Sardou, ça c'est une évidence.
Mais enfin, il faut avoir l'indignation pour tout le monde à toutes les paroles à ce moment.
Voilà, mais alors, soit on pense... Alors, pour une fois, je vais être un peu d'accord avec quelqu'un du gouvernement. Hein. C'est vraiment, je le dis avec un peu de tension dans la voix, mais bon, je vais le faire. Bon, il y a une direction artistique, musicale. Bon, soit on pense que ceux qui dirigent ça, c'est une bande d'imbéciles, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, on pense que voilà, c'est des crétins, donc ils ne devraient pas être là. Soit on pense qu'ils connaissent le parcours de Jul, ils savent qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a chanté, quelles ont été les polémiques. Et on ne va pas quand même penser que ces gens-là ont découvert... après lui avoir donné la flamme, ah mince, en 2014, il avait fait cette chanson. Bah, soit on pense que c'est des demeurés finis, alors là, on se dit bah, il faut qu'il démissionne tout de suite parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Soit ils savent ce qu'ils font, ils savent que ce qu'a dit Jul après cette chanson ou autre. Je pense que si on doit parler de gens qui sont connus, bah, il est connu. Tous les gens qui portent la flamme ne sont pas forcément aussi connus que lui. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire de mauvais procès. C'était une très belle cérémonie. Il avait sa place. Je comprends qu'on attendait Zidane, mais ça me fait sourire parce que c'est comme Zidane, on l'attend souvent pour qu'il entraîne telle équipe ou autre, puis finalement il vient pas.
C'est celui qu'on attend toujours.
On l'attend toujours, et je crois que Zidane,
c'est le gosse de Marseille, Jul, qui était à l'honneur.
Bien sûr. Bah voilà. Moi, je pense que sa place était tout à fait justifiée. Il faut pas lui chercher des points.
Oui, mais toi, il y a un tweetos qui disait, c'est pas l'Energy Music Award, quoi, c'est les JO.
Justement.
Mais on n'est pas là pour choisir le chanteur le plus populaire. On est là pour choisir peut-être quelqu'un qui représente le mieux la France.
Monsieur Jean-Loup Bonamy.
Sur le sujet précédent, on parlait de décadence. Je pense que ça continue tout à fait.
Jul, c'est la décadence.
Non. Ah. Je réponds, Jul, ce n'est pas la décadence. En soi, et je n'ai rien contre Jul, mais le fait de l'avoir choisi dans un événement éminemment symbolique censé représenter la France dans le monde, évidemment que c'est un signe de décadence. Et d'ailleurs, quand tu vois la liste pour ces Jeux Olympiques, entre... Alors j'avais vu l'histoire, c'était quoi le drag queen là qui a été félicité par Sandrine Rousseau?
Miss Martini.
Ah, Miss Martini. Sandrine Rousseau lui a dit bravo pour ce que vous faites. Donc le drag queen... plus Aya Nakamura, plus Jul, et ben dis donc, les JO en termes de prestige symbolique de la France dans le monde, à la fois vis-à-vis de sa propre population et dans le monde, me paraît quand même fort compromis. Et surtout, je parlais de décadence. Regarde, tu vois, regarde les textes de Jul. Il y a trois jours, là, on était sur la mort de Bernard Pivot. Tu vois, ça me paraît assez symbolique. Mort de Bernard Pivot.
Il est mort de
Jul qui va porter la flamme. Voilà, Jul m'a tué. Quand tu vois les textes de Jul, tu vois qu'il y a un effondrement de la qualité, même sur le plan du texte, même sur le plan linguistique. Et si tu voulais prendre des gens, bah, tu pouvais prendre Zidane, comme on en avait parlé. Tu pouvais prendre, alors là, bon, il est à l'Eurovision à Malmö, mais tu aurais théoriquement pu prendre Slimane. Tu aurais pu prendre le rappeur Soprano, qui lui est de Marseille et qui a des textes de bien meilleure qualité et qui lui, là, ça aurait pas été la décadence. C'est un rappeur, mais il a des textes beaucoup plus écrits, beaucoup plus travaillés. Tu aurais pu prendre Indila, qui est la première française à avoir fait 1 milliard de vues sur YouTube. Zidane, on l'a dit. Donc, tu pouvais prendre Kenza Farah, elle est de Marseille. Et d'ailleurs, elle a fait un duo avec Jules. Mais en général, les textes de Kenza Farah, ils sont quand même nettement plus travaillés que ceux de Jules. Donc, voilà, tu pouvais prendre plein d'autres personnages. Et c'est pas parce que notre ami Jules, c'est le S, vend des millions d'albums. Enfin, je veux dire, c'est pas la quantité, le marché, la masse, c'est pas un gage de qualité. Et c'est pas suffisant pour représenter la culture française. Mais bon, entre Aya Nakamura et Drag Queen, ça sera
pas mais est-ce que pas Gérard Larcher
Non,
mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de réconcilier un peu toutes les générations et de faire en sorte que les JO n'appartiennent pas uniquement aux boomers et que les jeunes puissent aussi s'emparer des Jeux Olympiques.
Et quand tu vois la position de Gabriel Attal, à mon avis, c'est typique de quelque chose. Il d'ailleurs, ça a été très bien analysé de manière générale par Régis Debray, par exemple. C'est l'effondrement symbolique du pouvoir. Normalement, le pouvoir, ça repose sur une symbolique forte, sur de la distance, sur de la majesté. On prend de la hauteur. C'est ça, le pouvoir. Là, le pouvoir est en train de se détruire lui-même par démagogie, en se mettant vraiment au
nouveau. Non, c'est pas nouveau.
Non, c'est pas
Emmanuel
nouveau, mais
Macron,
c'est comme ça que
le pouvoir... fait ça tout le temps.
Bah oui, avec,
parle de tout, Emmanuel Macron.
Avec
oui.
nos amis, les deux youtubeurs, McFly et Carlito, qui ont fait des galipettes dans le jardin de l'Élysée. Et après, on s'étonnera qu'on viendra dire « Oh là là, oui, c'est terrible, il y a une crise de l'autorité, on ne respecte plus l'autorité de l'État. »
Là, t'as pas tort, mais là,
mais c'est normal,
tu mélanges un peu tout quand même.
Non, c'est extrêmement lié. C'est l'État lui-même.
Jules n'est pas responsable de la fin de l'autorité.
Non, c'est le fait de choisir.
Il n'est pas responsable que Macron parle trop.
Le fait que le gouvernement investisse Jules et en fasse un symbole pour porter la flamme olympique, c'est le gouvernement lui-même. Et après, en plus, c'est vrai, on viendra dire « Oh là là, les mecs des cités qui font des rodéos, c'est terrible. » Mais gars, t'as toi-même investi Jules comme un représentant de la France. Donc le pouvoir, par démagogie, une sorte de gauchisme culturel, comme le dit le sociologue Jean-Pierre Le Goff, qui en plus lui est de gauche, de gauchisme culturel où on va toujours dans le moins-disant culturel et qualitatif, et après on est surpris. Ben non, le pouvoir se sape.
Donc
lui-même.
Ce que tu veux dire, c'est que même, c'est pas un exemple pour tirer la jeunesse vers
le
haut.
Mais bien sûr, on la tire
la
vers le bas.
Ouais, mais c'est pas
faux. On la tire vers le bas, on n'encourage pas la qualité.
C'est pas parce qu'elle aime
quelque chose de nul qu'il faut lui en donner une opération.
C'est vrai.
Mais oui, aimer quelque chose de nul, c'est très subjectif. Parce que dans les années 60, si tu veux, on cassait des disques d'Elvis Presley dans les années 50 en disant c'est nul, le pouvoir politique américain. Et finalement, ça
Oui, mais Jules n'est pas Elvis Presley. Jules n'est pas Gainsbourg.
Bien sûr, mais ce que je veux te dire, c'est toujours subjectif.
Mais
c'est l'histoire qui jugera si Jules reste.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà.
Jules, c'est pas Victor Hugo.
Mais bien sûr.
Mais ce que veut dire Jean-Loup qui est intéressant, c'est la place du pouvoir et de ceux qui ont l'autorité, et la place des Français, et la place de la, j'allais dire, du divertissement. Et lorsque tu ne fais plus de frontières, et lorsque tu n'imposes plus, justement, une forme de statut, de qualité, etc., lorsque tu as le pouvoir et que tu veux te mettre au niveau du peuple, finalement, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il a plus la noblesse de la fonction. On a perdu la noblesse de la fonction parce que la fonction a décidé de se mettre au niveau du peuple à tous les niveaux et en particulier sur la littérature, sur le parler.
Voilà,
sur
bravo.
Et c'est un problème. Et c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, les enfants te disent, mais de toute façon, le prof, il te parle wesh-wesh parce que le prof, il a besoin de se mettre au niveau.
Ça, c'est la culture wesh-wesh.
Bien sûr, c'est le triomphe de la culture wesh.
C'est un problème
parce que si tu parles bien aux enfants, si tu t'exprimes correctement avec les enfants, si tu leur transmets cette culture de toujours faire mieux et toujours plus, et ben forcément ils se hissent vers le haut. Or aujourd'hui, depuis 40 ans, même moins que ça, mais 20 ans, les pouvoirs tendent à devenir populistes au mauvais sens du terme.
Ok, d'accord.
Démagogue.
Je suis d'accord là-dessus. Mais une dernière chose. Alors, il faut quelque chose qui tire la jeunesse vers le haut. Alors, on prend qui?
Pour l'instant,
on ne pas être dans l'abstraction générale.
Oui.
On a dit Zidane, Soprano, Indila, Kenza Farah. Moi, j'ai cité plein de noms. Hein.
Oui, mais.
Bah si,
mais
ils incarnent.
Mais en même temps, voilà. Ah,
bah, tiens, attention, justement, Kenza Farah.
Dans l'incertitude, j'ai gardé la même attitude.
Alors, pour toi, c'est le haut du panier.
C'est mieux écrit que Jules.
C'est mieux écrit.
Pour moi, on est quand même ras du gazon.
Qui dit ça? Attends, il faut que je dise oui, une dernière une chose très importante.
Subjectif.
Regarde ce qu'on a dit tout à l'heure.
Subjectif.
Jules, il répète toujours quelque chose. Par exemple, à propos de Marseille, de ses fans, de son public, il dit c'est le S, c'est-à-dire le sang. Tu vois bien que chez Jules, le texte de Jules, ça charrie vraiment les liens les plus archaïques, le plus tribal. Voilà, vous êtes ma communauté, vous êtes le sang. Enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus bas.
Ah, puis je suis sûr qu'il y a quelque chose qui t'a fait plaisir dans la prise de parole de Jules, c'est ça.
Merci la zone.
Voilà, c'est la zone.
Merci la zone.
Merci, bravo la France.
Merci la zone.
Ça marque des points quand même là-dessus,
ouais.
Frédéric. Enfin, dans un instant, on en parle avec Karim, avec Julie, parce que ça y est, le 32-16.
Le GG, c'est le S.
Le 32-16.
Le GG.
Et tant que c'est le S. Et s'en surchauffe à tout de suite.
On va faire un signe pour les GG.
Merci la zone.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme.
Ah bah oui, mes petits enfants ils sont à fond eux. Ils sont très très rap mes petits enfants.
Moi c'est avec l'autotune que j'ai du mal. Mais enfin peu importe.
Imagine-t-on le général de Gaulle choisir Jules en autotune, les appels du 18 juin en autotune. Et surtout imagine-t-on le général de Gaulle choisir Jules.
Non, le général de Gaulle aurait choisi Mireille Mathieu. D'ailleurs elle est toujours là, voilà. Mireille Mathieu aurait pu chanter.
Ah mais c'est
porter la flamme des JO.
Ah non mais c'est intéressant ce que tu dis.
Ben oui.
Parce qu'il aurait pas pris Johnny Hallyday à l'époque. Tu vois, non, par exemple, qui débutait et qui se roulait par terre. Puis, France aurait hurlé à la décadence.
Rappelle, Johnny Hallyday, mais c'est pour ça qu'on a dit en 68, 10 ans de Gaulle, ça suffit.
Non, mais Johnny Hallyday, c'est Place de la Nation, le concert Place de la Nation. Mes parents y étaient, hein, donc ils m'ont raconté Place de la Nation, où on casse tout. Et Johnny Hallyday, à l'époque, c'est le Jules d'aujourd'hui, quoi. En
fait, bien sûr.
Un plus rebelle, même.
Mais ce concert de la Nation est un moment essentiel dans l'histoire. En juin 63, ce concert est fondamental parce que quand il est lancé, les organisateurs ne pensent pas qu'il y aura autant de monde. Donc, on pense qu'il y a quelques jeunes qui vont se réunir à la Place de la Nation. Et c'est un moment, l'acte de naissance d'une certaine jeunesse qui se retrouve avec tous leurs idoles, des yéyés qui sont là et reflue presque 50 000 personnes vers la Place de la Nation en juin 63. Hein, donc, c'est un moment.
Alors, parlons-en avec Karim qui nous passe un coup de fil au 32-16 du Vaucluse. Bonjour Karim.
Bonjour Alain, bonjour les GG.
Bonjour Karim.
Qu'est-ce que vous en dites? Vous faites partie de ceux qui regrettent, ceux qui applaudissent? Dites-moi tout.
Alors vous savez quoi? J'ai passé la journée entière, du matin jusqu'au soir sur le Vieux-Port. Alain, c'est Karim Delagne, le technicien télécom.
Ah ben oui, bien sûr, on s'est vu, bien évidemment. Et voilà, vous étiez venu avec un cadeau pour Joël, bien sûr Karim.
Exactement Alain, voilà.
Bien sûr.
Alain,
oui.
Ma fille m'a rejoint de 12 ans, avec deux garçons, d'accord? Et on s'attendait tous à voir Zinedine Zidane.
Ah.
Et quand il y a eu finalement Jules, moi c'est simple, je regardais autour de moi. Si vous imaginez les enfants, comme ils étaient contents, comme ils sautaient de joie, comme ça criait.
J'ai vu, il y en avait qui pleuraient.
Tous ces enfants-là, ils étaient émus de voir. En fait, eux, Zidane, ça y est, genre, il y a 30 ans à l'arrière.
Oui, ça ne rentre pas aux enfants, Zidane.
Et en fait, voilà, la nouvelle génération, même si moi, ce n'est pas mon choix, il faut vivre avec son temps. Genre, moi, je suis fan de Cabrel et de Renault. C'est pas Renault et Cabrel qu'il fallait mettre sur la scène ce jour-là.
Ouais, donc il faut vivre avec son temps. Ben il faut le dire à Jean-Loup Bonamy qui vit au 19e siècle.
Oui. Olivier, Jules, c'est pas un politicien. On ne demande pas de parler correctement.
Je suis d'accord.
Voilà,
de toute façon, d'une manière générale, il faut arrêter de faire porter aux artistes. Et c'était d'ailleurs le débat notre premier débat avec l'Eurovision. Il faut effectivement arrêter de faire porter sur nos artistes le poids de nos problèmes, des maux de la société, de ce qui ne va pas. Et Jean-Loup, quand tu dis il y a une décadence et une perte d'autorité, enfin tu fait porter sur Jules, sur ses
épaules. Non, il n'a pas dit ça.
Je n'ai pas dit ça.
Allez-y, Karim.
Un petit mot pour Zora. Zora ?
Oui, Karim.
Voilà, donc moi, j'ai deux garçons qui ont 20 ans. Ils étaient d'ailleurs toute la journée au Vieux-Port. Il y en a un qui est à Polytechnique et un qui fait un master de gestion de finance.
Oui.
Quand ils s'adressent à leur prof, ils disent pas « wesh, wesh ».
Oui, mais je sais bien, mais il y a tellement de jeunes extraordinaires, bien sûr.
Mais il faut la part des choses, surtout.
Mais Karim, juste deux secondes. Moi, j'interviens beaucoup auprès des jeunes en insertion et 80% sont extraordinaires. ils ont de la volonté, ils ont envie de s'en sortir. Et c'est vrai qu'il faut leur donner des clés, il faut leur apprendre. Et quand ils prennent, eh ben, ça se passe super bien. Donc, il faut tirer vers le haut. Et
oui,
c'est...
mais Zora, ce qui vient de dire, c'est pas ça. C'est que les jeunes font la part des choses. Moi, je suis de la génération de Renault, c'était le verlan.
Mais oui.
Ma grand-mère me disait, Renault comprend rien à ce qu'il dit.
Mais c'est plus
du français, c'est du verlan. Oui. C'est pas possible. Et aujourd'hui, Renault, c'est considéré comme l'un des plus grands chanteurs français. Et on le cite en exemple, la poésie de Renault. Donc en fait, chaque génération charrie son Renault.
Non, mais Jules, il a raison, Karim.
D'accord avec toi.
Il a raison, Karim, parce que moi, mes petits-enfants, s'ils avaient vu Jules arriver sur scène, ils auraient été dans un état incroyable. C'est pareil, c'est la génération.
Encore une chose. Déjà, on a passé une superbe journée. C'était exceptionnel. Le monde entier avait des yeux sur Marseille pour une bonne chose et j'étais très, très fier.
Mais autre chose,
il y a eu deux autres stars, Alain et Olivier. C'était incroyable.
Vers 16h45,
vers 16h45, je vois un attroupement au Vieux-Port. Je m'avance, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens-là? Et qu'est-ce que je vois? Alain et Olivier en train de faire des selfies avec plein de minots. Mais je ne comprenais pas. Je me dis, comment ça se fait que ces petits-enfants-là, ils font des photos avec Alain et Olivier?
Ah oui,
c'est
vrai.
Et
oui,
après, c'est Olivier, celui-là, il faut dans le plateau. Ils avaient besoin de certains mains, ils étaient populaires.
C'est les plus grandes stars du PAF, 20 ans de GG.
Karim, on vous salue, on vous embrasse. À bientôt.
Bonne journée.
Salut,
merci, Karim.
Jean-Loup.
C'est marrant parce que, professeur de philosophie, j'explique à mes élèves que je ne connais pas d'argument plus faible et plus creux que « il faut vivre avec son temps ». Voilà, justement, ça tombe bien, tu devrais prendre quelques cours avec moi.
Moi, je ne vais pas faire semblant d'aimer Jules.
Oui.
Je n'aime pas Jules parce que je ne suis pas fan du rap et c'est pas ce que j'écoute. Moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui font semblant d'être jeunes en disant « ah oui, Jules, c'est génial », alors que…
Comme Gabriel Attal, qui a un électorat.
Il est jeune, Gabriel Attal.
Il a 50 ans,
je vais pas faire semblant d'aimer Jules. Mais je comprends, moi, mes filles aiment Jules, et ceux qui aimaient dans les années 60 Mick Jagger et John Lennon, leurs parents devaient dire c'est inadmissible d'aimer Mick Jagger.
Je vais te répondre. Là, tu as dit très bien au début qu'il fallait séparer deux choses, et là, c'est toi qui es en train de les mélanger. On n'est pas en train de critiquer Jules. Voilà, l'artiste, il vend ses 7 millions d'albums. Très bien pour
c'est
lui.
C'est la caution du politique.
Voilà, exactement. On est en train de critiquer, comme le dit très bien Zora, la position symbolique qui investit Jules et le fait porter la flamme des JO. C'est deux choses très différentes. Voilà. C'est pas à Jules qu'on fait ce reproche, c'est aux gens qui l'ont choisi. Lui n'y est pour rien, en fait. C'est pas
qui
contre lui
choisir
qu'on en a.
Alors, qui devait-on choisir?
Je t'avais donné l'exemple de Kenza Farah. Malgré son nom, n'est pas la cousine de Frédéric Farah.
C'était pas spectaculaire, Kenza Farah.
Non, mais c'était un exemple parce que c'était Marseille.
Ce que veut dire Jean-Loup, c'est que le positionnement du politique, là où il est, la hauteur et la distance qu'il doit prendre, détermine la façon dont la société évolue. Parce qu'il donne caution. Je vais vous donner un exemple. Quand Macron fait des trucs nazes ou Hollande, on dit qu'ils insufflent des vents contraires et du coup la société va mal. Donc quand ils insufflent des vents qui rassemblent et qui unissent et qui tirent vers le haut, ça marche aussi dans les deux sens. Donc ce sont leurs choix qui vont déterminer où va aller la société. C'est symbolique et philosophique.
Mais là où je partage pas, c'est sur un point, c'est que je ne crois plus aujourd'hui que les gens regardent le pouvoir en espérant que de là va venir des orientations, un mouvement. Aujourd'hui, je crois que dans la société, profondément, le pouvoir en hauteur qui expliquerait aux uns et aux autres ce qu'il faut faire, les directions, les gens n'y croient plus. Le vide politique, ça compte plus.
La spiritualité, ça compte plus. Le vide total et dedans, t'as toutes les dérives sectaires qui s'engouffrent. Bravo, il faut rien.
Juste, les institutions sont tellement décrédibilisées, la parole politique ne vaut tellement plus rien.
Oui.
Et croire aujourd'hui dans des sociétés plus éduquées, où on est allé plus loin dans la scolarité, qu'on va regarder vers le haut en disant « Ah, donne-moi la bonne parole,
s'il te plaît, donne-moi la bonne direction »,
je n'y crois pas.
Ça ne marche plus.
Je crois que les gens, ils se responsabilisent et quand un homme politique parle, si aujourd'hui on croit dans la parole d'un homme politique, il faut être quand même...
Ah mais maintenant, aujourd'hui, on croit en des gourous, des mecs qui te disent que la Terre est plate, les dinosaures, ça n'a jamais existé.
Il y a quand même une nuance entre croire dans les institutions et croire que la Terre est plate ou je ne sais pas où il y a des complots tous les soirs.
Alors, on va aller voir Julie, on va aller écouter Julie dans le Rhône. Bonjour Julie.
Bonjour,
merci de votre patience Julie, vous avez écouté tout le monde. Et vous alors, vous avez choisi votre camp, qu'est-ce que vous en dites?
Moi, en fait, je pense que le débat, c'est pas... à Jules, oui ou non, en fait. J'aime pas Jules, hein. C'est pas du tout ma génération, pas du tout mon truc. Mais pour moi, en fait, je trouve dommage qu'on soit pas resté sur un sportif, en fait. Ça reste les Jeux Olympiques. Et pour moi, Jules, c'est pas le bon choix, en fait, dans ce sens-là. J'aurais plus vu, alors pas forcément Zidane, mais quelqu'un de l'Olympisme, en fait, qui représente les.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a entendu d'anciens sportifs, y compris des médaillés, dire attention à ne pas donner la flamme, à ne pas la sortir trop de ce qui est son cadre. C'est-à-dire le cadre de l'universalisme sportif. Et olympique, voilà, une partie de la société, il regrette, doit rester un peu à l'écart des Jeux Olympiques, parce que sinon, c'est ce qu'il disait, vous allez toujours avoir une frange de la société qui va dire, ah ben pourquoi pas nous, alors, puisque vous l'avez donné au rappeur, pourquoi pas à d'autres, quoi, voilà, à d'autres segments.
Il y a ce problème-là, et puis il y a le fait surtout d'allumer, en fait.
Oui.
Après, il aurait pu être porteur, pourquoi pas, relayeur à la limite, mais je trouve que pour l'allumer...
C'est-à-dire, vous auriez préféré, par exemple, Basile Boly que Jules, quoi.
Ou même quelqu'un qui représente vraiment les Jeux Olympiques, parce que c'est pas vraiment un sport olympique, le football.
Il y a un côté pipolisation
C'est ce qui me dérange. C'est vrai que Jules, c'est très bling-bling, ça attire du monde, on est d'accord. Ouais. J'entendais l'auditeur Karim avant moi. Effectivement, les gamins étaient contents, mais à la limite, fais un concert géant gratuit, mais pas ça, quoi. Enfin, je suis désolée.
D'ailleurs, il y avait un concert de soprano le soir même.
Ça,
peut-être que Jules aurait pu faire un concert.
Ils auraient pu faire un
soprano, ça aurait été mieux pour la flamme.
Mais non, mais moi je suis assez d'accord. Pourquoi pas un sportif?
Oui,
on pourrait s'en aller à Mbappé, puisqu'il est disponible.
Mais tout le monde s'attend à Zidane, parce que c'est aussi un sportif, qui est né à Marseille. On a tous en mémoire l'image extraordinaire de Mohamed Ali qui allume la flamme olympique à Atlanta.
Alors qu'il a une maladie de Parkinson.
Et on le voit d'ailleurs, parce qu'il tremble, il tient ça. Et c'est une des images qui est devenue une image historique d'ailleurs. L'image de Jules, je pense pas, restera dans l'histoire.
Ben voilà,
allez-y, Julie.
Je pense à ça aussi, parce que dans la semaine, j'écoutais l'émission d'Estelle Denis, et en fait, ils ont eu un auditeur qui s'avérait être Joseph Mahmoud, qui disait que, il n'avait pas pu participer, en fait, et qu'il était hyper déçu, en fait, de ne pas avoir été contacté pour être relayeur, au moins, quoi. Et je trouve ça dommage.
Ouais, c'est pas normal.
Parce qu'on est un peu dans le vu à la télé aussi.
Julie, on va écouter ce qu'en dit Florent aussi, qui est dans l'Orne. Bonjour, Florent.
Ouais, bonjour.
Agriculteur. Et vous regrettez le choix ou pas?
Un petit peu. Moi, je suis de l'avis de Julie. Ça a fait une super belle fête à Marseille avec un Marseillais ultra connu. C'est super. Sauf qu'on a oublié que ce sont les Jeux Olympiques, événements planétaires en France. C'est pas les Jeux Olympiques à Marseille. Qu'on fasse arriver la flamme à Marseille avec l'histoire de la Grèce. C'est super qu'après la flamme parte de Marseille pour aller à Paris. L'histoire Paris-Marseille. Enfin, ça, c'est super. Et c'est tout ça jusque-là, c'était très bien. Mais allumer la flamme, alors que c'est un événement, à la base, c'est pour les sportifs. C'est pas pour les gens, où est-ce qu'il y a des sportifs qui nous divertissent. À la base, c'est un événement pour les sportifs, où est-ce que nous, on les admire. Donc oui, ça aurait dû être un très grand sportif de l'Olympisme. On peut prendre un qui vient d'arrêter il n'y a pas longtemps, un Martin Fourcade qui est mondialement connu. Mmh. Ou on extrapole et on dit on ouvre un peu. Mais on a des gens je pense à Thomas Pesquet par exemple.
Qui était là d'ailleurs. Pesquet, il était dans la foule, hein, était à Marseille, on l'a vu sur le Vieux-Port.
Oui, être dans la foule, être porteur ou être le symbole de celui qui allume la flamme, il y a quand même de poids de mesure. Que Jules après soit même c'est lui qui aurait allumé au Vélodrome à la place de Didier Drogba, ça aurait pas posé de soucis parce que là c'était réapproprié dans Marseille, dans le Vélodrome qu'en plus Jules a rempli, va remplir dans plusieurs concerts. Mais allumer la flamme à l'arrivée en France pour un événement des sportifs, il y avait quand même pléthore de champions français où on extrapole avec quelqu'un de mondialement connu pour et qui divise très peu, hein, Thomas Pesquet qui est sportif, on va dire, à côté quand on est astronaute. Mais sinon, on a des Martin Fourcade, David Douillet, double médaillé olympique. Enfin, voilà, on a quand même pléthore de choses et on a enlevé l'événement des sportifs. Et on a fait un événement du peuple.
Un événement people, quoi, en fait.
Ouais,
c'est un événement
people. Alors qu'il a fait une super belle fête à Marseille. Et puis, les Marseillais sont très chauds là-dessus. C'était super de faire ça là-bas. Mais par contre, ça a fait trop Marseillais. Mais... il y a bien eu des commentaires, des commentateurs étrangers qui, c'est qui est en train d'allumer la flamme en France.
Puisqu'on a fait une liste de noms, alors là, en dehors du domaine du sport, mais par exemple, un exemple, à mon avis, mieux que les valeurs prônées par Jules, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas Henri, le héros au sac à dos qui était intervenu lors de l'attentat d'Annecy et qui s'était interposé pour sauver les enfants qui étaient poignardés? Ça paraît plus pertinent que Jules avec l'éloge des violences urbaines et du trafic de drogue. Excuse-moi.
C'est sur ce bon mot que nous conclurons la discussion.
Je vous laisse l'éditer, Truchot.
Merci
de ce récit édifiant.
Merci à Florent d'avoir conclu notre discussion. Alors, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Là, on en a parlé 20 minutes avec vous. Le porteur de la flamme, Jules, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est un choix raté, oui ou non? On va voir ce que vous en avez pensé. On y va? Consultation? Soit raté. Oui, 78%.
Et voilà.
Ceux qui ont suivi.
Il faut aller dans le sens de la masse, Olivier, comme tu le dis.
C'est la décadence assurée.
Le camp Jean-Loup Bonamy a gagné.
Eh bien sûr.
Dans un instant, GG, c'était match. Un enfant heureux, c'est avec un papa et une maman. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans l'entretien vidéo qu'il a accordé au magazine Elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de l'État? Oui, c'est ce que dit Jean-Louis Olivier. Non, c'est ce que disent Zora et Frédéric. À tous.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Frédéric Farah, Zora Bitant et Jean-Loup Bonamy, un professeur d'économie, un professeur de philo. Zora qui est cadre de la fonction publique, on va lancer le GG7 et match maintenant.
RMC.
GG7 et match.
Alors, où en est-on? Dans le GG7 et match, on va ouvrir la cellule familiale.
Ça s'annonce.
Grâce au président de la République. Cause du président de la République. Si vous étiez à l'écoute des GG ces derniers jours, vous vous souvenez qu'on a évoqué ce que le président de la République, dans l'entretien au magazine Elle, appelle le devoir de visite pour les pères en cas de séparation. Et puis, il y a l'interview vidéo aussi du chef de l'État accordée au magazine Elle. Et là, il évoque justement la cellule familiale. Le père, la mère, la famille aimante.
Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs. C'est un devoir d'être parent. Et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Je suis sûr qu'il faut un père, une mère, il faut une famille aimante. Il faut que, en effet, les parents exercent leurs responsabilités et les deux. Parce qu'un enfant qui ne voit jamais son père, c'est un enfant qui sent abandonné, c'est un enfant dont le développement affectif, éducatif, n'est pas le même.
Et là, dans ce qu'il dit, le président de la République, il y a une petite mise en exergue. C'est quand il dit il faut un père, une mère, une famille aimante. Est-ce à dire que pour Emmanuel Macron, la cellule familiale, c'est le père, la mère, symbole de la famille aimante? Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de l'État? Et là, on a un face-à-face avec deux équipes. Oui, pour Jean-Loup Olivier. Non, pour Zora et Frédéric. Mon cher Jean-Loup, tiens, je te donne la minute. Pourquoi tu es d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron? Un père, une mère, une famille aimante. Go.
Je suis d'accord tout simplement parce que le président de la République, là je pense, a énoncé ce qu'on appelle un truisme, c'est-à-dire une évidence, quelque chose qui correspond à ce que tout le monde a dans son esprit, dans son imaginaire, la représentation classique, hyper majoritaire, fondamental anthropologiquement de la famille, c'est ça. Tu prends un enfant de 3 ans, tu lui demandes de dessiner une famille, de faire un dessin d'enfant, c'est ça qu'il va représenter. Et on voit très bien, en effet, la souffrance qu'il y a pu y avoir pour ceux qui n'ont pas eu de père. Tiens, tout à l'heure, on parlait de rap. Moi, je vais te citer un autre groupe qui s'appelle Sniper, qui me faisait des textes de bien meilleure qualité que Jules, et qui avait fait une chanson qui s'appelait « Sans repère », sur les enfants sans père, en disant que l'absence de père, c'était aussi l'absence de repère. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des émeutes, des violences urbaines, on entend les gens dire « Mais où sont les pères? Les pères ont abandonné les enfants ?» J'entends même des féministes dire ça. Et ben voilà, il dit qu'il faut des pères. Ben, il a raison. Des pères et des repères.
Et des mères.
Et des mères, bien sûr. Et en plus, égalité homme-femme. On ne peut pas tout mettre sur le dos des femmes.
Il a été brillantissime, mon partenaire.
J'étais à votre école, Olivier.
Alors, réponse du camp d'en face. Alors, qui veut démarrer, Zora ou Fred?
Alors, dans sa phrase...
Tonton ou tata?
Donc, dans sa phrase, il dit un enfant heureux, c'est un enfant avec un papa,
avec un papa
maman.
Et une maman.
Ouais, une famille aimante. D'accord. Donc,
il n'a pas dit que c'était exclusif. Hein.
Voilà, oui. voilà.
Il n'a pas dit que c'était que ça.
Voilà. Donc, non seulement c'est pas que ça, d'abord.
Mais c'est enfin la majorité quand
voilà.
même.
Voilà. Si on part de la majorité, il faut pas exclure la minorité et les autres familles. D'abord pour plusieurs raisons. D'abord, on peut être très heureux qu'avec une maman.
Bien sûr.
Il n'y a pas de souci. On peut être très malheureux avec un papa et une maman.
Oui, il n'a pas dit le contraire.
C'est très compliqué, même si je suis assez d'accord avec toi, Jean-Loup, quand tu dis que c'est un truisme et que c'est la majorité et que c'est la vision qu'on a de la famille et qu'elle est traditionnelle et classique et qu'on doit se conformer à la réalité. C'est pas un choix ni une volonté. C'est comme ça. Il n'empêche que la vie montre que finalement, vivre dans une famille aimante, c'est pas toujours le fait d'avoir un papa et une maman, c'est le fait d'avoir des adultes aimants. Et quels qu'ils soient. Et ça, c'est hyper important. Des adultes aimants. Il y a des mamans et des papas pas aimants. La maltraitance des enfants dans des familles classiques est exponentielle. Mais oui, non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir.
Il
n'a
pas dit des adultes, c'est important ce qu'il dit. Il parle des deux sexes.
Oui.
Il parle d'un papa et d'une maman.
Parce que chacun n'a pas le même rôle.
Et c'est là où, pardon, mais on pourrait faire un bouquin un jour sur les contradictions d'Emmanuel Macron, parce que c'est le même Emmanuel Macron qui a autorisé la PMA pour les femmes, pour les couples de femmes et les femmes seules.
Bien sûr.
Donc là, il y a une petite contradiction. C'est-à-dire que
non,
à la fois
il parle à la majorité,
mais quand
et puis
on autorise,
parfois il parle à une minorité.
Non, mais quand on autorise la PMA pour les femmes, on acte le fait qu'il n'y aura jamais de papa et qu'on peut donc se passer de papa. Et puis là, il nous dit finalement, quand même, le papa c'est important pour l'épanouissement d'un enfant. Pardon, mais il y a des contradictions dans notre société.
Non,
Emmanuel Macron parle trop.
Non, mais il y a des contradictions. Mais je pense qu'on est tous. Et là, il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'à la fois, en ce moment, on dit oui, finalement, ce qui compte, les adultes qui sont là, etc. Bien sûr, il faut aimer son enfant, mais quand même l'idée d'avoir un repère masculin, un repère féminin, c'est pas non plus inutile. On le voit quand même que dans la plupart des cas de délinquance de mineurs, à chaque fois on tombe sur des enfants et notamment des garçons qui n'ont pas été élevés par un homme. Le père n'est pas là, le père a déserté, le père je sais pas où il est, etc.
Ou le père est là mais il joue pas son rôle.
Et donc il y a sans doute effectivement un manque d'incarnation de l'autorité paternelle. Ça existe et arrêtons d'être démagogues en expliquant que non, il suffit qu'il y ait des adultes qui aiment pour que tout se passe
non,
bien.
Non, mais il s'est trompé. L'idée, c'est l'autorité d'un père et d'une mère. C'est l'autorité dont il faut parler.
Et l'amour. Mais cette autorité, elle peut être à la fois de la mère et du père. Et penser que la mère, c'est la douceur, la gentillesse, et le père, c'est l'autorité. C'est un peu caricatural, quoi. Je veux dire.
Parfois, les mères sont plus sévères que les pères.
Évidemment, parfois, les mères incarnent plus l'autorité du père. Sortons des images un peu convenues de l'affaire. Le père, c'est la force, la mère, c'est la gentillesse. Et puis, que diable, on peut espérer autre chose du président de la République que ces platitudes bien convenues. Hein, ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, effectivement, on peut avoir aussi un père qui fait défaut, un père qui n'est pas là. Et l'important,
si on explique que c'est pas grave que le père ne soit pas là, après
c'est pas
on
que ce soit pas grave.
On l'a un peu acté quand même.
Non, mais je suis quand même très content de savoir que en 1970, dans le Code civil, on a abandonné ce qui était l'autorité paternelle. On a appelé ça l'autorité parentale. Hein. Mmh. Avant ça, il y avait que l'autorité. Bon. Je pense qu'Emmanuel Macron est au courant que depuis 54 ans, il y a eu une petite évolution dans le Code civil. Hein. J'espère qu'il est au courant. Peut-être qu'il le sait pas, mais il faudra l'informer. Ça s'appelle les réformes Carbonnier. Et fondamentalement, l'autorité, elle peut être partagée par les deux.
Je crois que justement, on a foutu dehors le père, moi. Je pense qu'on a été trop loin. Non, effectivement, avant la famille, c'était le père tout-puissant, qui était le chef. Et même la femme ne devait rien dire parce que c'est le père qui avait autorité sur tout. D'ailleurs, la femme ne pouvait pas faire un chèque sans demander autorisation de son mari. Et on est passé de l'excès à l'inverse. On a expliqué que le père finalement s'il n'était pas là, c'est pas grave, on peut finalement élever entre femmes des enfants, etc. Maintenant c'est comme toujours, on est en train de remettre le curseur au milieu en disant mais attention, on a quand même besoin d'un père pour payer la pension alimentaire, on a besoin d'un père pour incarner l'autorité lorsque t'as un ado un peu chaud, un peu bouillonnant, un garçon qu'il faut un peu contenir, et donc on se rend compte qu'on a été trop loin. Et
c'est parce ce que dit Macron, société teste la décadence et elle se rend compte que finalement ça marche pas mieux, et donc elle revient aux classiques et aux fondamentaux.
Oui, mais
le problème, c'est que la société.
On revient au bon sens.
Sauf que la société, dans la composition de la famille, elle a évolué.
Il y a 1,7 million de familles monopparentales.
Il y a des familles
monoparentales, ça veut dire une mère. Hein, oui, en général, 90% des cas, c'est la mère.
Et il y a des familles comment dire, recomposée. Et
aussi, c'est vrai.
Et ça, c'est,
il y a des beaux-pères, des belles-mères.
Et il joue parfois encore mieux le rôle, le beau-père, la belle-mère.
D'ailleurs, sans forcément avoir le statut de beau-père.
Voilà, sans avoir un statut particulier, et assume une autorité, et ça fait des enfants tout à fait épanouis. Je suis étonné que le président Macron sait très bien comment la famille s'est remaniée, qu'on peut effectivement être dans un environnement aimant avec des parents du même sexe ou des beaux-parents, et que quand même ignorer tout cela et juste nous présenter un ancien modèle en disant bah voilà, ça c'était bien, moi je trouve ça un peu léger, quoi. Vraiment.
Donc il se trompe.
Oui, largement.
En fait, le président de la République parle à la majorité.
Je vois pas en quoi, pardon, hein, mais Emmanuel Macron il peut dire des bêtises, mais là je vois pas en quoi il dit une bêtise quand il dit un enfant heureux, non, c'est avec un papa et une maman. Je pense qu'il aurait dû dire un papa et une maman aimante, parce qu'il y a, ben voilà, y a des parents qui sont...
Il est rajouté qu'une
famille aimante, c'est pour ça qu'il y a une famille aimante.
On peut dire ça sans être accusé d'être appartenant à la Manif pour tous, parce que j'ai lu ça dans Libé, on dit Emmanuel Macron c'est la Manif pour tous.
Le problème c'est toujours celui-là.
Non, mais on n'est pas obligé d'aller dans la caricature, et le président Macron aussi peut amener de la nuance en disant qu'une famille aimante, c'est peut-être un père et une mère, mais aussi peut prendre d'autres formes, et il n'y a pas que celle-ci.
Oui, mais il va plus loin, il dit un enfant qui ne voit jamais son père, c'est un enfant qui se sent abandonné, un enfant dont le développement affectif
oui,
et éducatif n'est pas le même.
Douceur. Non, mais là, il aurait pu être complet, et il aurait pu dire ça, et ajouter de toute façon, quelle que soit la forme de la famille, il faut de l'autorité et la présence aimante d'une famille.
Oui, mais le fait d'être deux, sans donner c'est aussi le partage des tâches.
À deux, bah, tu peux être deux hommes ou deux femmes.
Tes parents comme moi, tu sais très bien qu'à deux, c'est pas la même chose d'être tout seul pour élever un gamin, notamment lorsqu'il est ado, quand tu vas travailler, quand tu as les décalé. Donc l'idée oui, aussi, c'est d'élever à deux un enfant, c'est quand même plus simple. On partage les tâches.
Deux femmes et deux hommes, c'est pareil.
Non, mais
ils sont deux.
Aujourd'hui, on le sait très bien statistiquement, oui, c'est la deuxième journée de la femme. La femme en fait deux fois plus dans les tâches quotidiennes pour les enfants qu'un homme, et elle se retrouve à la fois assumer une journée de travail plus l'équivalent à la maison.
Jean-Loup,
oui, la charge. Oui, je pense que Olivier a souligné deux choses qui sont, enfin même trois choses qui sont très importantes. Un, deux parents aimants, on est d'accord. Un enfant peut être heureux avec deux mamans aimantes ou deux papas aimants. On n'a jamais dit le contraire, mais il y a quand même une polarité du masculin et du féminin. Ce n'est pas la même chose d'être un homme ou d'être une femme, donc ce n'est pas la même chose d'être un père ou d'être une mère. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les familles, les familles avec un couple gay ou lesbien, mais ça veut dire que il y a quand même une polarité du masculin et du féminin dont il faut tenir compte et qui est importante pour la construction de l'enfant. Deux, comme je l'ai dit, Olivier, c'est un élément important. On ne peut pas d'abord jeter les pères à la poubelle, et ensuite, quand il y a des problèmes, de la délinquance, des problèmes psychologiques, des femmes seules en famille monoparentale et en surendettement, dire « Ah, mais où sont les pères ? Il faut que le père revienne. » On ne peut pas d'un côté le jeter à la poubelle, et après, quand il y a un problème, dire « Ah là là, le père n'est pas là, mais où sont les pères ?» Ils sont à la poubelle, là, on les a mis.
Déjà, le père, il pourra contribuer financièrement aussi, parce que il y a aussi, dans le cas des familles monoparentales, le problème de la pauvreté de ces familles, de femmes seules avec un seul salaire.
Un
enfant, c'est aussi avoir les moyens de le faire.
Un enfant heureux, voilà, c'est avec un papa et une maman, oui ou non. On va regarder, petit quart d'heure de discussion. Discussion express à propos de cette petite phrase prononcée par le chef de l'État. C'est avec un papa et une maman, oui, mal, 66%, hein, non, 34%.
Mais parce que les gens ont eu un papa et une maman, ils en sont contents et ils le savent bien.
Allez, dans un instant.
Ils ont eu cette chance et ils aimeraient bien que les autres.
Deux policiers blessés dans un commissariat par un forcené qui a réussi à leur attraper l'arme. On va y venir. J'aimerais bien que les policiers au 32-16 nous disent. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment le gars a réussi à saisir l'arme du policier. Alors, normalement, elles sont dans un étui qui a une sécurité. Ensuite, l'arme, elle a une sécurité. On a un policier qui a dû être opéré, l'autre qui est aussi en urgence. Venez en parler avec nous. Je vois beaucoup de policiers qui disent que c'est plus compliqué pour nous. C'est quand on a affaire à des forcenés. C'est comment est-ce qu'on arrive à les maîtriser. À tout de suite au 32-16.